pleine vie après normal.
Rocher, bonjour, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Il y a une vie après normal. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que d'aucuns appellent l'une des plus belles réussites entrepreneuriales, osons les mots, hein, dans le milieu financier de ces dernières années. Alain Rocher, vous êtes le PDG d'Anta Infrastructure Partners, un fonds d'investissement donc en infrastructure, vous allez probablement nous expliquer qu'est-ce que cela veut dire, qui a été créé en 2007, après votre départ donc de la BNP Paribas, nous allons aussi en parler. Vous gérez aujourd'hui environ 7 milliards d'euros d'actifs, c'est d'ailleurs un des fonds d'infrastructure les plus importants en Europe. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre activité, sur qu'est-ce que Anta Infrastructure Partners ?
Oui, alors Anta Infrastructure Partners est un fonds de private equity, c'est-à-dire un fonds qui investit dans des sociétés qui ne sont pas cotées, dans un secteur d'activité que l'on appelle l'infrastructure et qui regroupe quatre grands sous-secteurs, les télécoms, l'environnement et l'énergie, les transports et les infrastructures sociales et de santé. À titre d'illustration, nous avons investi dans des ports, des autoroutes, des hôpitaux psychiatriques, des résidences pour autistes, des cliniques, des pipelines, des aires de stationnement d'autoroutes, des terminaux pétroliers, bref, des tours télécoms. Nous avons racheté les tours de Bouygues Télécom que nous avons depuis revendues à American Towers, leader mondial de l'activité. Bref, un ensemble de secteurs très variés qui ont comme caractéristique d'être décorrélés des grands cycles économiques et en particulier de résister très bien au cycle baissier qu'on a pu connaître depuis une dizaine d'années.
Alors justement, vous nous parlez de choses très diverses. Vous avez mentionné donc des hôpitaux psychiatriques, vous avez mentionné des pipelines, vous avez mentionné des ports, si je m'abuse. Et quel est le point commun ? C'est-à-dire que sous toute cette diversité, quel est le dénominateur commun qui vous fait investir dans ces domaines et quels sont les critères qui vous poussent à investir dans un endroit plutôt qu'un autre ?
Le point commun entre toutes ces sociétés qui paraissent un peu comme un inventaire à la Prévert, c'est qu'elles ont toutes des caractéristiques identiques. On les regroupe dans ce que nous appelons le test infrastructure ou encore dans notre jargon l'infra-test. À savoir, ce sont des actifs qui sont résilients au cycle économique, je l'ai indiqué précédemment. Ce sont des actifs qui possèdent des barrières à l'entrée importante, pensez à une autoroute, une fois qu'elle est construite, il n'y aura pas d'autoroute construite juste à côté. Ce sont des actifs qui ont des cash flows et des résultats qui sont prévisibles et dont la fluctuation est modérée. Bref, ce sont des activités qui, même si elles paraissent distinctes, ont des caractéristiques de risque communes.
Alors, nous parlions dans l'introduction de cette émission de ces 7 milliards d'euros d'actifs, mais ça nous semble très théorique à premier abord. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on constitue un fonds ? Où est-ce qu'on trouve l'argent ? Qui donne l'argent ? Est-ce que ce sont des investisseurs institutionnels ? Ce sont des privés ? Est-ce que ce sont des particuliers ? Alors comment est-ce que vraiment on gère et on constitue plutôt et on gère un fonds ensuite ?
Alors la création d'un fonds est quelque chose qui est extrêmement risqué. difficile. Je ne dis pas ça parce que j'ai réussi, mais il faut être lucide. C'est quelque chose qui est très aléatoire, très risqué, où la plupart des projets échouent. Fondamentalement, quand on a une idée de nouvelle activité, et ça s'applique à mon activité professionnelle, mais ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres activités, on a toujours le choix entre vouloir tout faire par soi-même, avec les moyens dont on dispose, ou au contraire essayer de s'associer avec des personnes qui peuvent apporter des compétences et du capital, le cas échéant, afin de se développer plus rapidement et être plus important. Moi, j'ai fait le choix de la seconde option. De deux manières. La première, c'est que j'ai souhaité associer à cette création BNP Paribas, pour lequel j'avais travaillé pendant 12 ans en tant que patron du groupe Énergie, à ce projet. Et BNP Paribas a apporté du capital initial afin de pouvoir lancer un fonds gros, important depuis le début. Le premier fonds était de 1,1 milliard d'euros, ce qui était pour un premier fonds, une taille très importante à l'époque. Deuxièmement, j'ai pensé qu'il fallait d'emblée avoir une vision non pas française, mais une vision européenne, afin de lever un fonds plus important et une succession de fonds plus importants à terme. Et pour cette raison, j'ai recruté d'abord un principal associé qui est anglais. Et ensuite, j'ai eu un souci de recruter une équipe extrêmement internationale. On a aujourd'hui 20 ou 21 nationalités différentes dans l'équipe, à travers de deux bureaux, un bureau parisien, un bureau londonien. Les équipes sont réparties moitié-moitié entre les deux endroits. Et les Français sont minoritaires à Paris et les Anglais minoritaires à Londres. Donc, très grande base diversifiée en termes de nationalité et donc de point de vue pour créer ce fonds d'emblée européen. Après, une fois qu'on a passé le stade de la création du premier fonds, les choses, si on investit bien, les choses sont plus faciles. Et surtout, si on ne s'est pas trompé, on peut croître très rapidement. Le deuxième fonds a été de 2 milliards. On l'a investi très rapidement, en à peu près un an et demi. Et on a levé, il y a un an, un fonds de 3,6 milliards. Donc vous voyez bien la progression très rapide de la croissance des actifs sous gestion de 1,1 milliard, plus 2 milliards, plus 3,6 milliards. Voilà. Et en fait, lever 3,6 milliards a été beaucoup, beaucoup plus facile que de lever le premier milliard. On a mis moins de 5 mois à lever 3,6 milliards, alors qu'on a mis 2 ans à lever le premier milliard.
Comment est-ce qu'on lève des fonds, concrètement ?
Alors, la levée de fonds, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Encore une fois, il faut, je crois, d'emblée faire un choix entre le bricolage, le bidouillage dans sa cuisine, où on se dit, voilà, il faut que j'aille voir des investisseurs aux États-Unis, des investisseurs au Canada, en Australie, n'importe où, ou alors faire quelque chose de façon beaucoup plus structurée. Alors, moi aussi, par caractère, j'ai tendance à être très structuré. Donc, on a eu d'emblée une approche qui était une approche qui consistait à lever des capitaux sur une base géographique extrêmement diversifiée. Et encore une fois, tout va ensemble. C'est-à-dire que si vous avez un fonds qui est petit et qui investit uniquement en France, vous n'aurez jamais accès au marché international des capitaux. Jamais. Parce qu'un fonds de pension américain, d'abord, qui va être très gros par exemple, va vouloir investir uniquement ce qu'on appelle dans notre jargon un gros ticket, c'est-à-dire un gros montant par fonds. Donc si le fonds fait 300 millions, il mettra jamais 20 millions, 30 millions, c'est beaucoup trop petit pour lui. Donc la taille compte, et avec la taille va la stratégie. Donc moi j'ai opté pour une stratégie non pas française mais européenne d'emblée. Pour un fonds qui était important d'emblée, en disant aux investisseurs, c'est le premier fonds, si on réussit, on fera des fonds plus tard qui seront beaucoup plus grands. Et ça, c'est quelque chose de très important pour les investisseurs qui ont en permanence à investir de l'argent en vue d'optimiser la rentabilité des retraites dans des gérants comme moi, qui leur offrent une capacité de déployer toujours davantage de capital s'ils sont contents, bien sûr, de la performance du gérant dans lequel ils investissent. Donc, alors comment on lève des fonds ? Ça, c'est une problématique que nous avons en particulier avec toutes les startups Internet. Et c'est une problématique extrêmement intéressante. Il faut avoir la taille critique, je pense, pour que les créateurs et les dirigeants ne soient pas accaparés par les opérations, c'est-à-dire dans mon cas les investissements, dans le cas d'une start-up internet, ben, le développement d'une plateforme, etc. Et, voilà, et toute la relation commerciale qui vont avec. Il faut donc avoir du temps libre pour pouvoir se concentrer sur la levée de fonds et le prendre comme un métier, vraiment comme une fonction, comme un métier à part entière. Alors, on peut se faire aider par des professionnels, il y a des sociétés qui aident, mais fondamentalement, il est important pour les dirigeants de se dire c'est un métier qui est aussi important que d'avoir une bonne idée, et donc il faut que je fasse, que je consacre le tiers, la moitié de mon temps pendant une des périodes les plus actives à cette levée de fonds. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien visualiser. Beaucoup de startups internet échouent sur ce point parce que les dirigeants, souvent très jeunes, n'ont absolument pas compris l'importance d'avoir une approche très structurée sur ce sujet. Et c'est le nerf de la guerre. Donc ils peuvent tomber dans les mains d'investisseurs qui vont en fait penser davantage à leur profitabilité à eux qu'à l'intérêt du fonds. Voilà. Donc il faut avoir du recul, de la bouteille, de l'expérience et être capable de structurer un effort de levée qui est très, très, très ambitieux. Après, c'est l'huile de coude. Donc on travaille avec des présentations. Il faut être capable de convaincre les investisseurs qu'on a quelque chose qui est pertinent, qui est intéressant. Personne n'arrive avec une idée, que ce soit dans mon secteur de private equity comme dans des startups internet, qui est unique. C'est faux. Bon, il peut y avoir parfois des idées un petit peu dans les startups qui sont très originales, mais à la fin de la journée, ça reste un secteur appréhendé comme secteur tech de façon globale par des gens qui investissent dans un ensemble d'activités différentes avec un niveau de risque assez homogène, comme c'est le cas d'ailleurs dans les secteurs dans lesquels j'investis, l'infrastructure, avec des sous-jacents qui sont très très différents. Donc on a, si vous voulez, on arrive dans un marché où les investisseurs ont d'autres options. Ils se disent pas on fait entin ou rien, et ils peuvent faire d'autres investisseurs, et donc il faut convaincre qu'on a quelque chose de particulier. Donc dans notre cas, on a eu une approche qui était très importante, qui était ce qu'on appelle dans notre jargon une approche value-added. On utilise beaucoup de mots anglais parce qu'on est dans un environnement qui est très largement anglo-saxon. C'est-à-dire c'est une approche où on se dit, voilà, si on investit dans un actif, c'est pour le développer, et donc pour le développer, il faut beaucoup travailler, voilà, développer, ajouter de la valeur, value added. C'est pour ça qu'on a indiqué à nos investisseurs que la rentabilité qu'on cherchait était une rentabilité très élevée, mais qui supposait effectivement une équipe importante et un gros travail qui soit fait. Je prends un exemple simple. On a racheté les tours de Bouygues Télécom il y a maintenant 5 ans. On a triplé la rentabilité de ces business en un peu plus de 3 ans avant de le vendre. Comment l'a-t-on fait ? On l'a fait en déployant le réseau de tours pour Free Telecom, le quatrième opérateur de téléphone mobile, et en développant également une activité sur les tours des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, voilà, qui vont jusqu'à Lyon. Voilà, donc l'idée, c'est, on aurait très bien pu simplement dire on achète une société qui marche bien, qui paye un bon dividende, et se dit on fait pas grand chose. On a choisi au contraire de la développer considérablement. Alors ça suppose d'abord une très forte implication des équipes d'Antin pour soutenir ce développement. Ça suppose le recrutement aussi de dirigeants des sociétés dans lesquelles on investit avec des profils de très haut niveau, des gens extrêmement ambitieux, agressifs, qui sont prêts à prendre des risques et qui sont capables de conduire, de piloter une croissance importante.
Alors, du coup, concrètement, ce que vous faites, c'est vous rentrez à 100% du capital, oui. Et donc ensuite, vous utilisez le pouvoir en fait, qui est lié aux personnes qui possèdent ce qu'on appelle les actionnaires, tout simplement, dans le cas d'une entreprise publique, pour nommer un dirigeant, pour mettre en place une stratégie que vous essayez estimer, selon vos calculs, vos prévisions, votre réflexion, permettre d'augmenter la profitabilité d'une entreprise qui gère des infrastructures.
Bien sûr, c'est exactement ça. Alors vous parlez de pouvoir d'actionnaire, ça a un petit côté, il y a les victimes du pouvoir par rapport à des gens qui détiennent le manche. C'est une vision qui est, comment dire, extrêmement, à mon avis, naïve et simpliste. Les actionnaires, évidemment, ont le pouvoir d'une entreprise, c'est une évidence, puisque elle leur appartient. Donc c'est comme si vous avez une maison, j'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe dans votre maison. Bon, de ce point de vue-là, le terme est juste, mais dans la vraie vie, les choses se passent un petit peu différemment. D'abord, premièrement, quand on achète une société, dans la plupart des cas, il y a des équipes de gestion, de direction qui sont en place. Bon. Et dans la très grande majorité des cas, ces équipes vont rester avec nous. Bon, donc, c'est pas comme si on achetait une société, on vire tout le monde parce qu'on a le pouvoir, comme vous le dites, et après, on fait table rase et on recommence. Notre intérêt, évidemment, c'est que s'il y a des gens de qualité dans les sociétés, ben, c'est qu'on les utilise des talents. Alors, ce qu'on fait par contre, et là, ça nous rend extrêmement populaires, c'est qu'on met en place des systèmes d'incitation financière pour être sûr qu'on aligne les intérêts des dirigeants avec les intérêts des actionnaires. Et donc, globalement, nous, on est là pour typiquement rester actionnaire d'une société pendant 4-5 ans avant de la vendre à d'autres opérateurs, industriels ou financiers. Après, ça varie en fonction des différents cas. Quand la vente se produit, les dirigeants de la société qu'on a vendue vont, si tout se passe bien, gagner beaucoup d'argent. Donc on a un système, si vous voulez, d'alignement d'intérêts pour qu'eux travaillent à créer de la valeur dans la société. Nous en bénéficions en tant qu'actionnaires, mais eux aussi en bénéficient en tant que dirigeants. Donc ça, c'est très important. Alors, autre point important, et ça c'est assez spécifique à notre activité, on parle d'actifs d'infrastructures dans lesquels il y a, sauf exception, relativement peu d'employés. Donc, la création de richesse ne se fait pas en licenciant massivement des gens. Il n'y a quasiment jamais, sauf vraiment s'il y a des problèmes individuels de personnes. Hein. La création de valeur ne se fait pas par une réduction de la masse salariale, mais au contraire par des projets de croissance. Et tout ça suppose des gros investissements, et ça tombe bien, puisque nous, on a accès à des ressources de capital qui sont considérables et qu'on peut mettre au travail de tout projet qui crée de la richesse.
Alors, vous parliez des actionnaires donc qui, grâce à ces investissements-là, vont retirer une plus-value, un profit. Vous parliez des dirigeants et de l'entreprise qui, justement, en mettant en place un modèle plus dynamique, en alignant toutes les incitations entre actionnaires et dirigeants, eux aussi profitent de ce surcroît de valeur. Et alors, j'aimerais également vous poser la question de ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu la responsabilité sociale des entreprises. Alors, vous n'investissez pas dans des fonds obligataires ou dans des choses que l'on pourrait estimer à première abord un petit peu théorique, assez lointaine. Vous investissez dans du concret. Vous construisez des ponts, vous investissez dans des relais télécoms, dans des pipelines, dans des ports, dans des gares, dans des choses qui font partie aussi du quotidien des gens et qui ont une conséquence parfois très directe. Vous prenez une fois l'exemple dans un entretien d'un investissement que vous avez fait des gares à Rome. Des gares italiennes. Exactement. Donc voilà, ça c'est un exemple tout simple d'une action de votre part qui peut avoir un impact sur des millions de gens dans leur vie de tous les jours. Comment est-ce que vous envisagez également cette responsabilité ?
Alors, la responsabilité sociale, c'est quelque chose qui est un thème extrêmement important de notre pratique en tant qu'investisseur. Nous, on a une approche un peu même plus large que ce que vous appelez responsabilité sociale, qu'on appelle dans notre jargon ESG, environnement, social et gouvernance. Bon, je vais prendre un exemple pour illustrer un peu mon point sur le E. On a été jusqu'à peu de temps, jusqu'à à peu près un an et demi, actionnaire d'une société qui s'appelle la Compagnie Industrielle Maritime, qui exploite le terminal d'importation pétrolière du port du Havre, qui couvre à peu près la moitié du territoire du port du Havre, et qui donc permet de stocker le produit, le brut, déchargé par supertanker au Havre, dans 100 cuves de 80 000 m3 chacune, qui sont connectées par un pipeline aux raffineries situées en Normandie, où le brut est processé avant d'être ensuite transmis par un autre pipeline vers des dépôts pétroliers. Et donc cette activité-là approvisionne de fait environ 40% du territoire. Du territoire français, incluant donc la Normandie, tout Paris, tout Grand Paris, jusqu'à Bordeaux à peu près, donc en situation de monopole. Il se trouve que l'urbanisation du Havre après la Seconde Guerre mondiale a été telle que, à une époque où on n'avait pas du tout de responsabilité, de sentiment, de sens des risques environnementaux, il se trouve que l'urbanisation du Havre a été faite juste en face des activités industrielles. Donc, vous imaginez ce qui se passerait si le site du Havre, de la Compagnie Nationale Maritime, avait un dysfonctionnement. Bon, donc la responsabilité sociale, la responsabilité, je dirais, environnementale de ce site qui est classé Céveso et qui est juste à côté des premières habitations du Havre est quelque chose qui est absolument considérable. S'il y avait un incident, il faudrait évacuer probablement la moitié au moins de la ville du Havre, et je crois qu'il doit y avoir 300 000 habitants au Havre. Vous imaginez un petit peu le bazar que ce serait d'évacuer en panique, en urgence, une population aussi importante. Alors, comment traite-t-on cette question ? Ça se traite en fait par deux types de séries de mesures. D'abord, le fait que des exercices de routine, de sécurité sont organisés chaque jour sur le site pour les employés. Et deuxièmement, par le fait que chaque mois, un exercice de simulation d'une catastrophe majeure est simulé sous la supervision du sous-préfet du Havre et implique les sapeurs-pompiers, mais aussi la gendarmerie et tous les services de sécurité civile, etc., de l'activité. Donc, un dispositif de sécurité, qui permet de simuler une grande crise et donc qui est très importante puisque le corollaire de cette situation, c'est que tous les employés et la direction bien évidemment sont très sensibles au fait qu'il faut opérer sans aucun problème. Troisième mesure de sécurité pour l'environnement, c'est une mesure qui consiste à systématiquement mettre le sujet de la sécurité et de l'environnement au premier plan dans les conseils d'administration que nous pouvons avoir avec le management et aussi à intégrer ce critère-là comme un critère majeur de rémunération des dirigeants. Donc, si vous voulez, on essaie toujours d'aligner les intérêts de façon extrêmement concrète, pratique et en même temps de s'assurer que y a ce souci profond de sécurité de l'environnement. Ça, c'est une partie, ça recouvre une partie de ce que vous appelez le social. Il y a d'autres choses. Donc, dans le S, je dirais, il y a tout ce qui va toucher, je dirais, au bien-être des salariés. On opère, encore une fois, dans des secteurs qui, parfois, sont des secteurs qui sont difficiles. Si je reste au port du Havre, c'est un secteur qui fonctionne, une société qui fonctionne en 3-8, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bon, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes aussi très très concrets de travail. Je prends un exemple. On a été très attentif à ce qu'on appelle l'accidentologie dans la société. Elle était, je veux dire, quand on est rentré relativement modérée, mais alors quand on l'a quittée, elle était quasiment nulle. Je vais expliquer ce qu'on a fait. Il y avait deux grandes sources d'accidents. Le premier, c'est quand vous montez sur la passerelle d'un supertanker pour faire les connexions, brancher les pompes afin d'extraire le brut et de la mettre dans les grandes cuves. Malheureusement, comme vous le savez, il pleut parfois un petit peu en Normandie. Donc vous avez quelqu'un qui va à 2h du matin, un mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, il commence son car, il monte sur la passerelle, elle est mouillée et il glisse. Bon, il peut se casser ou se tordre un poignet ou se faire mal, etc. Bon, donc, tout simplement, on a été amené à réfléchir aux revêtements qu'on avait sur les passerelles, s'assurer aussi que les ouvriers avaient des chaussures qui avaient des semelles antidérapantes adaptées, et puis aussi s'assurer qu'on passait des coups de karcher pour enlever toutes les vapeurs ou les vapeurs, enfin les résidus de vapeurs de produits bruts qui pouvaient rendre glissant une chaussée. Bon, ça c'est un premier exemple, qui a été spectaculaire. On a tout à coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait quasiment plus aucun incident sur les passerelles. Après, il y avait un autre incident qu'on avait identifié, c'est que sur un site qui a quasiment 80 ans, alors qui a été constamment bien sûr modernisé, parce qu'il est absolument state of the art, comme on dit, mais qui de facto est un site industriel très très ancien, certaines des valves que devaient activer les ouvriers étaient placées un peu bas. Ce qui fait qu'encore une fois, quand on est bien chaud physiquement, parce qu'on a travaillé pendant 2-3 heures, etc., ça pose aucun problème, on se baisse, mais typiquement, il y a eu des problèmes de maladies, d'accidents liés au fait que quelqu'un qui venait de se réveiller commence à travailler, il se courbe, il fait un mouvement fort et il a mal au dos. Bon, donc on a essayé, dans la mesure du possible, de penser de façon ergonomique et donc de remonter les valves pour qu'on puisse activer ces valves à hauteur d'homme sans qu'on puisse donc avoir d'accident. Ça, c'est le côté S qui est un côté extrêmement important. La gouvernance, c'est aussi un sujet important. Alors, la gouvernance, c'est un sujet très, très vaste. Je vais pas en parler trop en détail, mais on est soucieux que y ait toujours une bonne entente dans les entreprises où on est actionnaire. Et donc, on favorise le dialogue social. On veut aussi favoriser le fait que les opportunités de carrière soient bien gérées et qu'on favorise les gens qui sont d'abord dans la société depuis longtemps, promotion interne par rapport à recrutement extérieur, c'est important. On essaie aussi de s'assurer que la société dans laquelle on investit est un bon citoyen localement. Et au Havre, je dois dire que on a eu des rapports qui étaient d'ailleurs extrêmement proches avec les autorités locales du temps d'Édouard Philippe en particulier, qui à l'époque était maire du Havre. Bon, pour qui cette société est le principal employeur du Havre. Donc très naturellement, il a une attention.
Ce n'est pas rien.
Il a une attention très particulière à ce qui s'y passe. Et nous, on avait aussi le souci, si vous voulez, que justement, on traitait très très bien tout ça. Alors, quand vous faites un travail qui est correct sur ce qu'on appelle, vous appelez ça la responsabilité sociale, on appelle ça notre jargon ESG, environnement, social, gouvernance, vous créez un climat, d'abord dans la communauté où vous êtes investi, mais aussi dans la société, qui est extrêmement, je dirais, serein. Les gens se sentent heureux, fiers de travailler dans leur société et vous créez de facto beaucoup plus de valeur. J'ajoute un dernier point important pour le G de ESG, pour la gouvernance, c'est l'égalité des genres dans les entreprises. C'est un thème qui est extrêmement important pour nous. On fait tout ce qu'on peut pour effectivement promouvoir au niveau de la direction tendre vers une égalité homme-femme. Alors c'est très compliqué dans des milieux industriels comme les terminaux pétroliers. Il y a peu de vocations féminines malheureusement. Mais enfin quand même, on a par exemple recruté une directrice financière qui est une femme et qui fait un travail excellent. Donc il faut qu'on aille militer un petit peu pour recruter des femmes dans des secteurs qui ne sont pas forcément leur tasse de thé.
Alors, on s'attarde beaucoup dans les médias, et nous venons également de le faire avec profit, sur cette seconde partie de votre carrière, donc, qui est votre occupation aujourd'hui depuis maintenant 10 ans. Est-ce qu'on pourrait peut-être un petit peu revenir justement sur les débuts? Et à commencer tout bêtement par votre entrée à l'école. Donc, vous êtes cloutier, vous entrez à l'ENS de Saint-Cloud en 1979, si je ne m'abuse. Et alors, vous étudiez la philosophie. Alors, comment, d'abord, pourquoi ce choix? Comment est-ce que vous en êtes venu à faire de la philosophie? Et ensuite, comment de la philosophie on passe à une carrière dans la finance? Parce que, à premier abord, alors c'est un petit peu, comment dire, toxique, mais. Ce sont des orientations un petit peu orthogonales. Peu de philosophes, on n'a jamais vu Kant ouvrir un fonds d'investissement. Alors justement, ce qui est très intéressant, comment vous, dans votre parcours, vous en êtes venu à passer de l'un à l'autre?
Alors, moi d'abord, pourquoi la philo? Ben, la philo, si vous voulez, ça fait partie des grandes passions que j'avais, en fait, que j'ai découvert bien avant de rentrer à l'école. J'ai commencé de facto à lire Pascal, Descartes, je me rappelle très bien, Montaigne, Saint-Augustin, quand je devais avoir 14-15 ans. Et en fait, je le lisais seul, dans mon coin. Ça me passionnait, je le lisais par hasard, parce qu'il y avait vraiment un attrait chez moi très très fort pour la matière, alors que je ne suis pas du tout issu d'une famille d'enseignants, et en particulier pas d'enseignants de philo. C'était pas des livres qui étaient chez moi, qui étaient disponibles chez moi, donc j'allais les acheter, je me rappelle très bien, j'avais 14-15 ans, bon, j'allais m'acheter C'est une montagne, si vous voulez, voilà. Et voilà, c'est une passion, c'était une vraie passion. Passion d'ailleurs dont je ne parlais pas du tout avec mes copains, parce que c'est vrai que quand on se dit à 15 ans à ses camarades, garçons ou filles, qu'on lit Montaigne, franchement, à l'époque, c'était pas spécialement bien porté, je crois.
Même aujourd'hui.
Ça ne serait pas beaucoup, beaucoup mieux. J'avais ça. Alors bon, donc la philo était clairement un centre d'intérêt. Et en fait, je dois ma rentrée à l'école à un professeur de lettres de première, que j'ai eu en première, qui s'appelait Philippe Baume, qui était un type tout à fait extraordinaire, et qui et qui me un jour qui demandait un devoir, etc., me dit c'est bien, est-ce que tu lis des choses en ce moment? Je dis oui, et puis je lui dis voilà, je suis en train de lire l'essai de Montaigne, etc. Je crois que c'était Montaigne à l'époque. Il me dit ah bon, tu lis ça, voilà. Mais c'est hors programme. Mais je dis oui, mais ça fait très longtemps. Je dis ah bon, ça fait longtemps. Puis on a passé un petit peu de temps, on était prendre un café, et on a parlé une heure. Et ensuite, il est allé voir ma mère en disant, écoute, voilà, votre fils, clairement, a une vraie passion pour la littérature, il est très doué, une passion pour la philo, c'est incroyable, il a 16 ans, bon, il faut absolument qu'il fasse classe préparatoire et normal sup. Bon, et donc, il faut l'inscrire dans un bon lycée parisien, j'étais dans un lycée de banlieue, vous voyez, tout à fait classique. Bon, alors, c'était un choc complet parce que moi d'abord, je n'avais jamais entendu parler de normal sup, si ce n'est qu'à l'époque, je me souvenais que Georges Pompidou, qui était mort depuis quelques années, avait été normalien. Mais enfin, à part ça, ça ne me parlait pas plus que ça. Et n'étant pas dans un milieu d'enseignants, personne ne m'avait suggéré de faire ce genre d'études. Bon, en tout cas, ma mère, elle a parfaitement entendu le message, m'a inscrit à Henri IV. Et donc c'est comme ça que je suis rentré en classe préparatoire et ensuite et que j'ai pu faire la philo. Alors ça a été, si vous voulez, un engagement personnel absolument incroyable, où effectivement je me suis incroyablement engagé. Mais enfin c'est vrai que quand je m'engage dans quelque chose, je le fais toujours à fond. Mais j'ai joué vraiment un peu ma vie, si vous voulez. Je me souviens de mon premier devoir de philo en terminale. Bon, j'avais bossé comme un fou, et j'avais le sentiment, à juste titre d'ailleurs, que je jouais ma vie. C'est aussi simple que ça. Bon, donc ça s'est très bien passé, j'ai eu la chance d'avoir de très très bons profs, notamment de philo, mais pas seulement. Et donc j'ai fait normal. Après, quand je suis rentré, j'ai eu... Alors je ne sais pas si c'est politiquement correct de le dire dans ce forum, mais mon professeur de philo de Cagnes, pour qui j'avais une très grande admiration, qui était un type extraordinaire, m'a dit, donc j'étais très fier, j'intégrais, j'allais faire de la philo, je me voyais agrégé, prof à la Sorbonne, enfin voilà, et probablement je pense que c'est ce qui me serait arrivé si j'avais suivi mon chemin. Enfin, en tout cas, il m'a dit, écoute, je pense que tu as un goût pour le bonheur et un talent pour le bonheur trop important, ne le gâche pas, tu devrais faire autre chose que de la philo, parce que la philo, c'est très très dur à vivre au quotidien à très long terme. Parce que c'est des matières tellement intimes qu'il faut être, comme il me disait, il faut être fils de pasteur protestant ou fils de bûcheron. Hein, on a Kant ou Heidegger. Pour tenir le coup, il faut être un gros bourrin pour tenir le coup, sinon tu ne vas pas réussir à produire. Moi, j'ai produit un bouquin, il avait écrit un bouquin, j'ai eu un mal fou à le faire. Il faut vraiment être solide, mais il faut être un fils de paysan souab, dur au mal, parce que la philo, c'est trop dur. Alors j'étais totalement stupéfait, je me disais, vous vous rendez compte, je viens d'intégrer. Il dit non, mais je t'assure, réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Et puis c'est vrai que j'avais très confiance en ce qu'il me disait. Bon, du coup, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai fait double licence lettres et philo, j'ai fait maîtrise, bon. Et puis je suis rentré donc à Sciences Po, pensant à l'époque faire l'ENA. Et là-dessus, donc, il y a eu quelques petits événements politiques qui sont passés en 81 avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Je rappelle pour ceux qui rappeler ce forum pour le faire. Je rappelle qu'à l'époque, la France était devenue de facto un pays à économie dirigée, à économie socialiste, hein, à économie communiste, puisque quasiment 100% de la finance était nationalisée, contenue par l'État, et tous les grands groupes. Et correspond pour environ plus de 50% de la production industrielle française, était également nationalisée. C'est un pays communiste. Bon, alors, évidemment, on n'a pas eu le bolchevisme, mais enfin, on avait quand même une structure d'actionnariat et de propriété des instruments de production qui était complètement collectiviste. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce pays ? Ça va déraper complètement. Il faut que je puisse nourrir ma famille et me nourrir, où que ce soit dans le monde, et surtout pas être tributaire de décisions qui me concernent complètement. Donc j'ai fait HEC, et après ça je suis parti travailler donc à Londres dans un cabinet de conseil stratégique qui s'appelle Bain.
C'est vraiment une sorte de... Alors non pas d'anti-mitterrandisme sur la personne, mais sur le... C'est un anti-socialisme convaincu, c'est ça ?
C'est que je pense fondamentalement que l'État est absolument incapable de bien gérer l'économie, mais fondamentalement. Et je pense qu'il y a eu un mirage qui maintenant d'ailleurs est complètement dissipé. Personne n'érigerait la gestion de la SNCF en modèle de gestion. quels que soient les talents de Guillaume Pepy, qui par ailleurs est un type extraordinaire. Enfin, tout le monde voit bien que les groupes les bien gérés sont jamais des groupes d'État. Enfin, c'est, il y a eu un très bon rapport fait par David Azéma. Sur l'État actionnaire qui a été publié l'an dernier, qui justement fait le point sur l'inefficacité de l'État comme actionnaire, qui est absolument caractéristique. Je vais prendre un exemple très très simple. Quand vous voyez l'état du système ferroviaire français, les stratégies qui ont été faites, une stratégie tout TGV, qui a délaissé les trains de banlieue, les trains régionaux et l'entretien des rails, qui est le plus gros, le plus gros réseau ferroviaire français. Vous avez là une incurie qui est effarante, un mismanagement effarant. Donc je crois que personne ne peut défendre aujourd'hui, d'ailleurs personne ne penserait à le faire, la gestion de groupes privés par l'État. Et encore une fois, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour Guillaume Pepy, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Simplement, il a affaire à des pesanteurs politiques. Quand il faut rénover un réseau, ça coûte 5-10 milliards. C'est 10 milliards d'endettement qui va être sur le bilan de l'État. Eh ben, on passe ça à la majorité suivante, on met sous le tapis, et puis ça s'en va jusqu'au moment où on arrive à une situation qu'on connaît aujourd'hui.
Il y a une montagne sous le tapis.
Oui, et aujourd'hui, on a des problèmes de sécurité ferroviaire, on a des problèmes d'accidents ferroviaires, de retard. On n'est plus dans le système du retard, si vous voulez, ou simplement, on a juste des problèmes, et on le sait, les montants d'investissement, donc tout le sous-investissement lié à une gestion publique catastrophique depuis 25-30 ans. Il y a un choix qui est tout TGV contre la vie des gens, c'est-à-dire les personnes qui prennent leur train pour aller travailler, etc., les TER. Ben tout ça se matérialise aujourd'hui avec une facture qui est considérable.
Oui, mais alors justement pour vous, par exemple, prenons ce cas rapidement, parce que je voudrais quand même un petit peu revenir après sur votre parcours jusqu'à Antin. Quelle est la solution pour vous? Est-ce que c'est une privatisation du réseau ou est-ce qu'une autre solution a été avancée, qui est celle de la décentralisation, de la gestion par exemple par les régions, de tout ce qui est les trains régionaux, là où le déficit est criant, donc c'est-à-dire pour tout ce qui est TER, train de banlieue, par les régions. Pour vous, quelle serait la bonne approche si on part de ce constat, si on vous rejoint sur le constat que l'État, en tant que gestionnaire stratégique d'entreprise, n'est pas efficace?
Là, pour moi, le vrai sujet, et c'est quelque chose que nous, on expérimente dans notre activité, c'est qu'il faut qu'il y ait un décideur. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas dix, il faut un décideur. Dès que la décision est partagée, dès qu'il y a des jeux de pouvoir entre différents décideurs, rien ne se passe. Donc il faut un décideur. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut que ce décideur soit responsable, comptable de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. D'accord ? Donc, si vous mettez... alors, le sujet maintenant de savoir si des régions feront mieux ce que l'État fait, c'est très sympathique parce que tout le monde trouve que c'est génial, l'État est trop puissant, etc. Enfin, ce que j'exprimais de façon un petit peu humoristique sur la face communiste de la France sous Mitterrand, beaucoup de gens aujourd'hui sont très irrités d'avoir un État trop présent, trop coûteux, mal géré, etc. Bon, enfin, tout ça est tout à fait correct. Maintenant, si on va dans l'autre sens en disant on va demander aux régions de faire le boulot, ben, la première chose, c'est d'abord, est-ce qu'elles ont le pouvoir de faire le boulot? Deuxièmement, est-ce qu'elles ont les moyens financiers de faire le travail? D'accord. Est-ce qu'elles ont les ressources humaines pour pouvoir apprécier comment dire, les tâches à faire et pouvoir les conduire? Il n'y a pas de solution miracle. Je pense que, en revanche, il faut qu'il y ait une gouvernance, c'est une capacité de prendre des décisions qui soient extrêmement claires, simple, efficace. C'est ça le vrai défi. Alors si c'est au niveau de la région, tant mieux. Maintenant, ce qu'il ne faut pas, c'est que l'État se défasse de charges financières sur une région qui elle-même n'en a pas beaucoup plus de ressources financières et qui n'y connaît rien, et qu'à ce moment-là, plus rien ne se passe. Voilà. Mais c'est vrai que il y a eu, si vous parlez du ferroviaire, et je pense qu'il y a eu une gestion, non pas par la SNCF, mais par les pouvoirs publics qui se sont succédés depuis une trentaine d'années, qui a été priorité au tout TGV, bon, et qui a négligé complètement ce qui concerne 90% des usagers de la SNCF. Et alors maintenant, pour revenir en arrière, améliorer ça, ça va être très compliqué.
Lorsqu'on regarde votre carrière professionnelle, a posteriori, avec peut-être une certaine part d'illusion biographique, on a tout d'un parcours sans faute quand même. C'est-à-dire que vous rentrez donc dans l'un des meilleurs, un très prestigieux cabinet de conseil en stratégie, donc qui est Bain & Company, dont vous parliez à Londres. Vous poursuivez ensuite en fusion-acquisition dans la banque Lazard, qui est très, très prisée pour son activité de fusion-acquisition. Vous avez été chez Lehman Brothers, qui aujourd'hui on en a un petit peu un regard sévère, parce puisque justement il y a eu cette faillite qui a beaucoup marqué les esprits, mais qui était l'une des plus grandes banques du monde à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Et ensuite vous arrivez donc à la BNP Paribas en tant que directeur du département pétrole, gaz et mines, avant justement ensuite en 2006 de quitter la BNP pour rejoindre votre fonds dont nous avons parlé. Est-ce que vous aviez un plan de carrière ? Parce que là, on relie les points et on a vraiment la courbe parfaite, l'ascension fulgurante, le sans faute. Est-ce que c'était pensé comme ça ? On peut avoir le droit d'avoir un plan de carrière, il n'y a pas de honte à cela. Ou est-ce qu'au contraire, ça a été aussi en partie ou complètement guidé par les aléas, les rencontres, les réactions, c'est-à-dire finalement, je n'aime pas le conseil en stratégie ou j'en ai marre, j'ai envie de passer à autre chose. Qu'est-ce qui a été le moteur de changement dans votre carrière?
Alors premièrement, si je peux dire une chose, c'est que évidemment je n'avais pas le moindre plan de carrière, et quand j'entends des gens qui m'expliquent qu'ils ont toujours rêvé de travailler dans le private equity ou dans la banque, etc., qui commencent leur carrière, je leur dis écoutez, arrêtez de me raconter de la salade, parce que moi à votre âge j'avais pas la moitié de ce que je voulais faire dans ma vie, donc je ne vois pas comment vous pourriez de façon crédible me dire ce que vous allez faire pour tout l'ensemble de votre carrière. Donc j'avais pas de plan de carrière à l'époque. Encore une fois, j'étais parti pour être professeur de philosophie à la Sorbonne, c'était mon but ultime, hein. Bon, je l'ai un petit peu raté, donc de ce point de vue là j'ai pas tout réussi. Alors deuxièmement, je pense que ce qui est très important, moi ce qui était important dans ce qui est devenu de facto une carrière, mais que j'ai vu comme ma vie en fait, hein, puisque le travail occupe toujours une part extrêmement importante, c'est plusieurs choses. D'abord, j'ai eu le souci de me dire, comme je ne sais pas ce que je veux faire à très long terme, il faut que je sois capable d'avoir une première expérience, je dirais, qui est généraliste, c'est qui me donne une vision de différents métiers, et puis je verrai un petit peu dans tout ça ce que j'offrerai. Donc c'est vrai que le conseil en stratégie est formidable, parce que j'ai travaillé sur des acquisitions, j'ai travaillé sur des sujets très opérationnels, par exemple pour le groupe Bull qu'on conseillait à l'époque, des sujets d'optimisation d'achat de composants, etc., enfin très 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 opérationnel, vous voyez. J'ai travaillé sur des rationalisations de d'offres commerciales dans des hypermarchés, j'ai des sujets incroyablement variés, qui permettent un petit peu de voir ce qui nous intéresse plus ou moins. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que la première élément de ma carrière, ça a été de faire ce jugement, de me dire, comme je ne sais pas ce que je veux faire, il faut que je sois dans un poste d'observation qui permette de voir un peu les métiers qui vont me plaire. Bon. Deuxièmement, après, il y a les rencontres. Les rencontres, c'est très important. Et les rencontres, ça fait partie des soft skills, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des talents immatériels, qu'il est absolument capital d'avoir si on veut avoir une carrière qui est une carrière riche et très diversifiée. C'est-à-dire la capacité à rencontrer des gens. Ça paraît tout bête, mais vous pouvez rencontrer plein de gens formidables, mais qui ne vont pas s'intéresser à vous, ou vous ne saurez même pas que les gens sont des gens intéressants avec qui vous pouvez avoir un dialogue. Donc la capacité d'être ouvert à l'autre, de rencontrer des gens et donc d'échanger avec des gens qui sont des gens qui ont une vraie richesse intérieure, si vous voulez, est quelque chose d'extrêmement extrêmement importante. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai eu la chance de faire quelques très belles rencontres qui ont été structurantes. Je parlais de cette, probablement la première rencontre importante dans ma vie, ça a été ce professeur de français en première, à qui je tenais à rendre hommage. Il y a eu d'autres personnes qui m'ont fait confiance, je pense notamment à Simon Nora, qui m'avait fait rentrer chez Lehman Brothers, qui a eu joué un rôle de mentor pour moi, et dont je lui suis extrêmement reconnaissant. C'est quand même lui qui m'a fait rentrer dans la finance, alors que j'avais une idée de la finance qui était extrêmement impressionniste. Bon. Et puis d'autres gens ensuite, par la suite, qui ont joué des rôles, je ne vais pas donner de nom, ce n'est pas le sujet là, mais des gens qui m'ont aidé à des moments clés de ma carrière à me dire en chemin. Donc la rencontre, c'est très important, mais la rencontre, ça suppose une capacité à l'accueil, une capacité à la rencontre qu'il faut. Alors si on ne l'a pas beaucoup, il faut savoir la développer. Parce qu'on n'a pas 50 000 rencontres dans la vie qui sont des rencontres structurantes, et donc quand on en fait une belle, il ne faut jamais la rater. Elle coûte très cher, ça vaut très très cher une belle rencontre. La troisième élément, c'est le caractère. Alors, le caractère, c'est probablement ce qu'on n'apprend pas à l'école et ce qui est le plus important. appeler ça le caractère et puis aussi les valeurs. Hein. Voilà, il faut être capable de prendre des risques. Et ça, je crois que c'est une, moi c'est la principale leçon que j'ai retirée. Vous avez des gens qui sont pas des gens exceptionnellement intelligents sur un plan académique, mais qui sont capables de prendre des risques quand ils ont fait l'analyse que cette activité-là, ce choix-là, il est pour eux. Voilà. Donc, le caractère, c'est probablement ce qui est le plus important. Je l'ai vu, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai créé Antin, j'ai dû démissionner de mon ancien job. Beaucoup de mes camarades me disent « Mais t'es complètement fou, la direction générale de BNP Paribas, t'aimes beaucoup, t'es très apprécié, t'as une équipe qui marche bien, tu gagnes bien ta vie, qu'est-ce que tu fais à prendre un risque pareil, pourquoi ?» Bon, très bien. Et très honnêtement, il y a des gens qui avaient des qualités au moins équivalentes, voire supérieures à moi, qui auraient pu faire ce que j'ai fait, et à qui il a manqué le caractère de le faire. Le caractère, c'est-à-dire la capacité à prendre des risques à un moment clé de votre vie.
Pour revenir sur justement votre expérience philosophique, parce qu'en fait c'est intéressant, on pourrait éclairer votre carrière à partir de ça et voir cet aller-retour entre votre expérience philosophique, votre engagement professionnel, votre carrière. En quoi maintenant, en quoi dans votre carrière professionnelle, cet enseignement philosophique qu'on présente très souvent comme étant théorique, à qui n'a jamais entendu « Ah, tu veux faire de la philosophie, c'est très bien, mais ça va te servir à quoi ?» En dehors, pour manger, pour faire bouillir la marmite. Alors j'ai envie de vous poser la question, justement, la philosophie, à quoi ça sert pour faire, en quoi ça peut être utile pour faire bouillir la marmite, c'est-à-dire en quoi ça vous a fourni des outils intellectuels, des approches, une rigueur, une méthode, je ne sais pas, dans votre carrière.
Alors, moi, je pense qu'il y a deux grandes familles, je dirais, philosophiques. Il y a la famille des systèmes philosophiques, les Kant, les Hegel, etc., bon, qui sont effectivement obsédés par une approche extrêmement spéculative de la, et particulièrement Hegel, de la philosophie. Et puis, vous avez ce que Clément Rosset, excellent philosophe, appelle les philosophes de la vie. Ce sont des gens qui vont porter un regard philosophique sur des grands thèmes de la vie. Bon. Moi, clairement, j'ai toujours été fasciné par ces deux approches philosophiques, mais tout naturellement, mon usage de la philosophie, c'est un usage de la philosophie comme une philosophie pratique, philosophie pour la vie. Et ça remonte vraiment à mon enfance, à ma préadolescence, quand je lisais Montaigne. Quand vous lisez Montaigne, vous n'avez pas quelqu'un qui a une volonté de faire un système philosophique. Vous avez quelqu'un qui a une grande culture et qui a une envie de creuser par un dialogue avec des grands textes de l'Antiquité à l'époque, de creuser des thèmes afin de construire sa propre vision philosophique du monde, mais sur des aspects extrêmement pratiques. Et il ne se rêve pas comme un sujet libre, pur, éternel, etc. Non, il se rêve vraiment comme quelqu'un qui est ancré dans la réalité, avec d'ailleurs beaucoup de trivialité dans la façon dont il se décrit lui-même, ou décrit ses relations avec les gens, et en même temps, il y a cette exigence d'une philosophie pratique. Alors, moi, c'est un peu cette philosophie-là qui m'a toujours passionné. Alors, comment ça impacte dans... qu'est-ce qu'on en tire pour sa vie actuelle? Je dirais que je pense que ce qu'on en tire, c'est enfin moi ce que je crois en avoir tiré, c'est une très grande curiosité, une très grande soif d'apprendre, de toujours creuser les questions. Ça, c'est quelque chose qui est assez frappant. Il y a des gens qui vont, alors dans la finance plus qu'ailleurs, je dirais, enfin, en tout cas, la finance, certainement, ils le font. Vous avez des gens qui vont, notamment des gens qui ont un background scientifique, qui vont prendre un thème, qui vont prendre un tableur, faire des modèles économiques, ils vont faire ça à une vitesse de mitraillette et pas réfléchir derrière. Et moi, je dis toujours, une fois qu'il y a des chiffres, il faut voir ce qu'il y a derrière les chiffres. Donc, l'exigence de toujours apprendre, de comprendre, de tester tout à la réalité et tous les thèmes. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est une démarche profondément philosophique. Alors, je l'applique. Vous voyez, par exemple, que j'ai dans mon bureau un tableau blanc. Bon,
grand tableau blanc, décrivons-le.
Certains, mais donc, je m'en sers énormément. Certains, je crois, de mes collaborateurs m'appellent le professeur, de temps en temps, dans mon jeu. C'est pas méchant de leur part, mais parce que c'est pour moi une façon d'objectiver un peu mes pensées. Voilà, donc je pense qu'il faut être capable d'être, de creuser les thèmes, il faut être capable de les mettre à distance, de les travailler comme des thèmes, comme des outils, en fait, comme des concepts, hein, finalement, hein, pour vraiment en tirer le meilleur, donc triturer les idées, si vous voulez, triturer des situations pour arriver à en tirer la substantifique moelle, comme le disait Rabelais. Donc voilà, on est là-dedans. Donc c'est extrêmement utile, c'est un regard, c'est une exigence. La philosophie, c'est ça, c'est un regard, c'est une exigence, c'est une curiosité, c'est un souci de toujours travailler, toujours de comprendre mieux que ce qu'on perçoit de la prime abord. Donc je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Maintenant, je ne parle pas d'Hegel et de Kant tous les matins, mais si je le faisais, les gens me prendraient pour un fou furieux, ils auraient peut-être raison d'ailleurs. Mais voilà, il reste la curiosité, l'émerveillement, la capacité effectivement à travailler et toujours retravailler sur les idées qui sont des idées reçues pour ne jamais satisfaire. Je prends un exemple qui va être très simple, mais qui illustre bien mon propos. Aéroport. Un des secteurs dans lesquels on investit, nous, dans notre secteur, c'est les aéroports. Vous avez deux sortes de types d'aéroports. Donc, sur le papier, aéroport, c'est... vous avez plein de compagnies aériennes, ça vole partout, le trafic est plus ou moins égal, donc vous dites, ça, c'est de l'infrastructure, selon le test que j'évoquais tout à l'heure, sans ambiguïté. En fait, quand vous regardez un peu plus en détail, vous allez avoir, par exemple, à Francfort, vous avez deux aéroports, un qui s'appelle Frankfurt International, qui est le grand aéroport, qui est un des plus grands aéroports au monde.
De Lufthansa.
Voilà, opéré par Lufthansa, et vous avez environ 120 compagnie aérienne. Si jamais un transporteur décidait de partir, il y a une liste d'attente monstrueuse pour prendre les créneaux d'atterrissage et de décollage. Donc l'aéroport là est complètement pour nous sécurisé à très long terme parce que vous êtes sûr que vous aurez toujours du trafic et toujours des revenus si vous êtes opérateur de l'aéroport. Si vous prenez juste à côté un aéroport qui s'appelle Frankfurt Hahn, il a la même signalétique, les mêmes tapis roulants, tout est pareil, la même logistique si vous voulez physique. Par contre, il dépend de 4 tour opérateurs et low cost. Bon, s'il y en a des 4 qui partent, l'aéroport est en situation financière très difficile. Il faut être capable de porter un jugement sur ces deux situations qui sont très simplistes, hein, que j'évoque, pour bien comprendre si les deux passent ce qu'on appelle notre test infrastructure dans notre jargon. Clairement, le premier le fait, pas le deuxième. Donc, il faut être capable de ne pas s'emballer et donc de pouvoir réfléchir. La philosophie, ça apporte ça.